Bonjour, bienvenue pour le deuxième volet de notre semaine spéciale consacrée à Banda Aceh, les 2 ans du tsunami. Découvrons aujourd'hui la vie des expatriés, des ONG humanitaires, présentes pour nombre d'entre elles depuis les premiers jours de la catastrophe. Climat politique tendu et ville en reconstruction, les expatriés tentent de se faire une place dans ce panorama. Alors, quelle vie pour les expatriés 2 ans après le tsunami ? Alcool, rencontres et festivités s'organisent discrètement. Il suffit d'avoir les bonnes adresses. Nous sommes aux 30 ans de Dina, une jeune femme indonésienne. Ses amis locaux et expatriés sont réunis autour d'elle.
Jérôme, vous avez un whisky à la main, vous avez l'air content. Est-ce si rare à Banda Aceh ?
Oui, c'est plutôt rare. Parce que ici, c'est musulman et c'est pas forcément évident de pouvoir boire de l'alcool. On a toujours notre réseau, soit on est entre français, soit on est entre français et anglophones. Mais il y a toujours. Le vendredi ou le samedi, il y a toujours une soirée.
Aujourd'hui, dans ces soirées-là, n'avez-vous pas peur de voir débarquer la charia ?
Ça peut être une possibilité, mais malheureusement, quoi. Ils ont déjà essayé en débarquant une soirée des UN et ça a posé de réels problèmes avec justement les Nations Unies. Et voilà, normalement, ils devraient pas, ils n'ont pas à intervenir chez les expatriés en eux-mêmes, parce que la charia ne s'applique pas, entre autres, aux expatriés.
D'accord. Sur cette soirée-là, quel genre de problème il y a eu exactement, pour que les auditeurs comprennent ?
Ils sont simplement venus contrôler qu'il n'y avait pas de locaux dans la fête qui était faite avec chez les UN, tout simplement. Ouais, contrôler s'il y avait de l'alcool ou des choses comme ça. Mais c'est surtout toujours en lien, savoir si oui ou non il y a des locaux présents dans ces soirées-là.
Je suis avec Mika, elle a 26 ans, elle travaille aux Nations Unies et elle est indonésienne. Elle peut nous parler de la vie des expatriés à Banda Aceh puisqu'elle côtoie tous les jours les Occidentaux. Alors Mika, comment voyez-vous la vie des expatriés ? Est-ce qu'ils s'adaptent bien ? Comment ils se comportent ? Et comment vous, les Indonésiens, vous les percevez ?
Ok, Mbak Ika, gimana sih kehidupan orang-orang expat di Banda Aceh ini ? Gimana cara mereka beradaptasi ? Gimana cara mereka bergaul gitu ? Menurut pandangan Mbak gimana ?
Menurut saya pada para expat itu di sini cukup enjoy ya, menghadapi kerjanya maupun di lingkungan luar kerja.
Oke, d'après lui, d'après elle, qu'il enjoy leur vie et hors de travail, il s'adapte bien avec les Indonésiens.
J'ai jamais entendu de choses qui disaient les expats restent entre eux. Parce que de toute façon, les Indonésiens, ils aiment bien rencontrer les étrangers, mais ils n'ont pas forcément envie qu'on aille chez eux tout le temps, qu'on les squatte, etc. Donc je dirais que ça s'est assez bien vécu. par la population et dans l'ensemble, ils sont reconnaissants. Là où il peut y avoir après des difficultés, c'est effectivement avec la charia, c'est-à-dire qu'on doit s'adapter à ces règles-là, c'est-à-dire pas d'alcool, pas de relations hors mariage, pas de relations entre gens qui n'auraient pas la même religion aussi. Puis bon, pour nous, les femmes, évidemment, faut toujours faire attention à sa tenue, aussi à son comportement. On ne peut pas mettre la main sur l'épaule. Enfin, on peut, ça dépend des cas, mais il faut vraiment faire très attention à ça. Je pense que dans l'ensemble, les expatriés font quand même assez d'efforts pour respecter toutes ces règles. Quand c'est, je dirais, hors loi, c'est vraiment en privé. C'est vrai que nous, dans les maisons, bah, on arrive des fois à avoir un peu d'alcool, donc on boit des apéros. Mais on a tous quand même très bien compris, les ONG sont là quand même depuis 2 ans. Quand il y a des soirées et qu'il y a de l'alcool, on n'invite pas les Indonésiens. Il y en a des fois, évidemment, parce qu'il y a des gens qui viennent de Jakarta, de Medan, qui sont habitués à une vie, je dirais, moderne. Donc évidemment, on partage avec aussi ces gens-là, mais c'est des gens responsables et qui savent les risques qu'ils encourent. Donc, les expats ne prennent jamais la responsabilité d'inviter des Aceh-nés qui ne connaîtraient pas ce milieu et qui ne connaîtraient pas éventuellement ce qu'ils encourent avec la charia. Donc je dirais que dans l'ensemble, c'est assez positif et que les expatriés sont assez disciplinés.
Soalnya udah tahu di mana tempatnya minum alkohol dan mereka tidak sembarangan untuk minum alkohol. Mungkin mereka mencoba menghormati para penduduk setempat. Dan mereka nggak pernah kayaknya ya, cuman nggak tahu deh, nggak pernah dengar aja bermasalah pada polisi.
Oke, el nongtong du pasangkoh sur le problème des expats avec de police, avec des alcool, parce qu'il des expats ils savent quelle place ou quel endroit ils doivent boire d'alcool et elle respecte les habitants ici parce que les habitants ici la plupart ou bien beaucoup d'habitants ici ils sont musulmans et ils n'entendent pas encore les expats qui ont le problème avec les polices.
Merci beaucoup. Terima kasih.
Terima kasih, Mbak Ika.
Terima kasih banyak. Merci beaucoup.
Jeunes parfois qui arrivent sur le terrain, s'intègrent-ils à la vie ici?
Alors je dirais qu'on est quand même, enfin, expatriés, moi je vais parler des expatriés humanitaires, hein, les autres types d'expatriés je connais moins. Faut quand même savoir qu'on travaille dans l'humanitaire, donc on sait qu'on va partir à l'étranger, dans des cultures complètement différentes, on sait que le facteur, ce qu'on appelle interculturel est très important dans la réussite d'une mission, le management d'une équipe, les relations avec une communauté. Donc je dirais que les expatriés qui viennent là savent déjà un petit peu comment ça va se passer, en tout cas ce à quoi ils auront droit, ce qu'ils ne pourront pas, puisqu'on est quand même préparé dans nos sièges, parfois on part avec quand même des infos sur le pays dans lequel on va. Donc ça c'est la première étape pour s'adapter. Après, ben, on compense par d'autres choses. Un, l'intérêt qu'on a dans le boulot. Je veux dire, il compense, je dirais, quasiment tout. À partir du moment où on fait un boulot intéressant, ben, il y a des choses qu'on sacrifie qui ne sont pas essentielles à la vie, donc on arrive à s'adapter. Et puis on développe des relations. Alors même si au début de l'interview, je disais que c'est un petit peu plus difficile à Bandahatché, on y arrive quand même. Dans mon cas, j'en ai développé aussi ailleurs, dans d'autres villages. Donc avec des gens hatchénais qui ne sont jamais sortis d'Aché, mais aussi avec des hatchénais qui connaissent très bien Medan, Jakarta ou bien la Malaisie, même des gens éduqués qui connaissent notre monde, même s'ils n'y sont jamais allés. Ils voient bien via des documentaires, des films, etc. Donc on arrive aussi à rencontrer des gens qui ont la capacité de nous comprendre et qui connaissent leur culture, donc ils nous donnent aussi des clés. C'est-à-dire que je pense pour s'adapter, il ne suffit pas de connaître les règles, mais aussi de savoir pourquoi elles ont été installées, dans quelles conditions, comment la population elle-même, elle le vit, ce qui nous permet de relativiser et de voir jusqu'à quel point on doit la suivre aussi. Enfin, je pense que c'est beaucoup de communication avec les locaux, une bonne préparation avant de partir aussi. Voilà, un mix d'un peu de tout qui fait qu'on arrive à s'adapter. Après, je pense qu'il y a aussi des gens qui, au bout d'un moment, on en marre. Donc, c'est vrai que ça peut faire du bien, de temps en temps, de partir à Medan, de ne pas se sentir, surtout des fois en tant que femme, de ne pas se sentir regardée, de ne pas nécessairement faire attention à ce qu'on a mis aujourd'hui. Donc, il est clair que la plupart des gens aiment bien quand même sortir d'Aché au bout d'un certain nombre de mois. Pour un week-end, pour une semaine, ça fait quand même du bien. On a l'impression de revenir à des repères qu'on connaît un petit peu mieux.
Dans ce coin de bout du monde, Marseille brille professionnellement et humainement. Manu, résident du cours Belzunce, pose son empreinte sur la reconstruction et distille sa joie de vivre, celle qu'il puise dans ses origines marseillaises.
Alors Manu, le retour à la vie d'expatrié, pas trop difficile ?
Non, pas du tout, j'attendais un peu le moment. Ça fait 8 mois que je suis sur le terrain ici à Bandahatché, et j'ai pu prendre 3 semaines de break en France. Et donc, bien sûr, j'étais à Marseille. Bon, ça fait du bien un peu de retrouver son cadre, de prendre le bus, entendre parler marseillais. Et puis, de voir les choses qu'on connaît autour de soi, quoi. De gérer complètement son environnement.
Vous avez trouvé un petit changement à la vie marseillaise en 8 mois où vous êtes parti ?
Oui, tout à fait. Ben, surtout au niveau de la construction du tramway sur Canebière et République. C'est assez difficile de circuler centre-ville pour l'instant. On verra par la suite.
Alors revenons un peu à cette vie d'expatrié. Vous, que faites-vous exactement à Bandahatché ?
Moi, je suis sur le programme, je ne sais pas si vous avez entendu parler du programme de l'AMCROUT, un programme de construction de maisons pour les victimes de tsunami. Moi, je suis chargé de la relation communautaire, de faire le lien, en fait, entre tout le programme de construction et les bénéficiaires et aussi la communauté locale. C'est-à-dire, je travaille essentiellement avec les populations locales, les chefs traditionnels, les chefs religieux et les gens qui habitent autour du programme et qui sont en partie concernés par la construction.
Alors, est-ce qu'un Marseillais s'intègre bien à la vie de Bandahatché ?
On va dire le Marseillais peut-être, mais le tempérament latin, les tempéraments de un peu où il y a l'expression, les choses dans ce style-là, faut pas trop s'emporter. Donc en même temps, c'est un bon travail sur moi-même de pouvoir réfléchir sur mon comportement, sur la manière de parler, etc. Mais en même temps, les Hatchénés sont assez ouverts. C'est une population en même temps qui est aussi très dynamique. Ils n'ont pas été très choqués des fois de mon comportement. En même temps, j'y travaille. C'est juste l'histoire de parler avec les mains, de prendre tout l'espace autour de nous quand on parle. Ça les fait rire plus que peur.
Alors aujourd'hui, il est difficile de boire de l'alcool à Bandahatché. Le pastis, là, on n'y pense même pas.
Si, justement, je suis revenu de Marseille en étant passé par le Duty Free parce que justement, ils vendent des bouteilles en plastique. Donc c'est moins lourd et il y a quand même la même chose à l'intérieur. Donc il y a quand même une petite bouteille de pastis qui est au chaud, au frais, justement, enfin au chaud. Et qui attend le bon moment pour ouvrir un peu l'apéritif, tranquillou, quoi. Voilà.
Ces moments-là, on les savoure à Bandahatché, on prend le temps de boire un pastis en sachant ce qu'on boit et la rareté du produit sur place.
D'autant plus, en plus, c'est un bon cadre quand même, il y a palmiers, soleil, ça va bien que le pastis aussi, quoi. Mais c'est vrai que s'il n'y en avait pas, si ce n'était pas possible d'en avoir, on ferait autrement, on ne ferait pas tout simplement. Et il y a la possibilité d'en avoir un peu, sans abuser, bien entendu, et toujours en restant bien dans la maison. C'est sûr qu'on ne va pas boire à l'extérieur, on respecte quand même le cadre à Chénise, quoi, de toute manière.
J'ai vu un seau à l'extérieur, dans le jardin, où il y avait des boules. Est-ce vous le responsable de ce saut ?
En partie. C'est vrai que la pétanque, ici, c'est pareil, comme je vous disais, il y a du sable, il y a du soleil, il y a des bons petits endroits pour la pétanque. Et on s'est fait quelques parties déjà. Ça fait du bien. On a joué plusieurs fois avec Zatchenis, et ils apprécient bien le jeu et tout. C'est des gens très joueurs de toute manière, dans la culture et tout. Après avoir expliqué la règle qui n'est pas très difficile non plus à comprendre, ça se passe très bien et les gens, ils apprécient pas mal.
Donc on peut dire aujourd'hui qu'à Banda Aceh, il y a un petit coin de Marseille qui vit.
Mais même plus qu'un petit coin, parce que je veux dire, en étant de Marseille, c'est quand même un bon passeport pour traverser le monde, parce que malgré tout, tout le monde connaît Marseille, vraiment, par le biais de Zidane, de toute manière. Et c'est vrai que quand je dis que je suis de Marseille, de suite, c'est le mot Zidane qui sort, et de suite, ça facilite les relations avec les gens et tout. Et voilà, donc, comme Zidane, en plus, est de relations, et d'origine maghrébine, etc., etc. Ça facilite pas mal la relation avec les Atchénis.
Kepala tidak boleh bergerak, sekarang yang harus jadi sekarang yang harus digerakkan adalah papannya.
Tangan di atas bahu, putar ke depan. Ke depan.
2 ans après l'arrivée des ONG à Banda Aceh, les expatriés humanitaires se sont intégrés à la vie dans cette partie instable de l'île de Sumatra. Le respect des coutumes, l'humilité, le travail de reconstruction engagé a permis à ces hommes et ces femmes de gagner la confiance des habitants et de leur transmettre un peu de chez eux, par des photos, des sourires et des loisirs.
Kita orang tua.